En fait, faut vraiment s'imaginer la scène. On est au cinéma, la salle est plongée dans le noir. À l'écran, c'est la suite très attendue d'un énorme film d'action.
Ouais, le genre de saga où le héros principal a passé les deux premiers volets et a absolument tout écrasé sur son passage.
Mais exactement. Un personnage qui a rétabli la justice avec une force implacable, le champion incontesté, qui recule devant rien ni personne. Et là, le nouveau film commence.
Et c'est la douche froide.
Bah oui. Soudainement, ce même héros invincible perd tous ses moyens. De manière brutale, totale. Il se laisse humilier, il se laisse frapper. Et le pire, c'est qu'il refuse catégoriquement de lever le petit doigt pour se défendre.
Ce qui crée une dissonance cognitive massive. Dans une vraie salle de cinéma, face à un tel retournement, on entendrait les spectateurs murmurer, se demander s'il n'y a pas une erreur de scénario.
Ouais, ou si le réalisateur n'a pas complètement perdu la tête, quoi.
C'est ça. On ne programme pas un public à admirer la toute-puissance pour ensuite lui servir une soumission absolue sans aucune explication.
Eh ben, c'est exactement ce vertige, ce choc narratif qu'on va explorer aujourd'hui. En plongeant dans une analyse de texte ancien du livre d'Ésaïe.
En se basant plus particulièrement sur les recherches et l'enseignement du docteur Robert Chisholm.
Tout à fait. Et on y découvre une figure littéraire et prophétique qui subit exactement cette chute vertigineuse. C'est ce qu'on appelle les chants du serviteur.
Et pour ceux qui s'intéressent à ces textes, dans les premiers chants, ce fameux serviteur est présenté comme un nouveau Moïse. Un champion qui va instaurer la justice sur terre.
Et puis bam, la cassure arrive. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ce texte utilise des contrastes aussi extrêmes. On passe de l'humiliation la plus abjecte au triomphe le plus absolu.
Et au fond, c'est de voir comment cette poésie, qui est vieille de plusieurs millénaires quand même, vient percuter et détruire nos propres conceptions de la réussite, de la force et de la souffrance.
C'est fascinant parce que pour comprendre ce décalage, il faut vraiment se replonger dans la mentalité de l'Antiquité.
Ouais, proposer l'idée d'un sauveur qui se laisse volontairement écraser, à l'époque, c'est un suicide rhétorique.
C'est clair.
Dans le Proche-Orient ancien, le pouvoir se démontre par la domination. Les dieux et les rois victorieux, bah, ce sont ceux qui subjuguent leurs ennemis.
Un messager divin qui se laisse faire, c'est perçu comme un gros loser, fondamentalement.
Exactement. C'est vu comme une défaite totale. La question primordiale, c'est donc de savoir quelle est la logique interne qui pousse ce serviteur à accepter un tel traitement.
Ce qui nous amène à examiner d'abord l'état d'esprit de cette figure. Avant même de décrire la violence physique, le troisième de ces chants qui se trouve au chapitre 50 s'attarde sur sa posture mentale.
Et le texte utilise une formule hyper spécifique. Il parle de la langue d'un apprenti ou d'un disciple.
Ouais, et il est précisé que chaque matin, une force divine le réveille pour qu'il écoute avec une attention absolue. Ça donne l'image d'une discipline quotidienne presque obsessionnelle. On pourrait comparer ça, tu vois, à un maître musicien, un virtuose qui a déjà un niveau mondial, mais qui s'oblige pourtant chaque matin à l'aube à répéter ses gammes les plus basiques avec l'humilité d'un débutant.
C'est une super image. Il y a vraiment cette volonté de se vider de son ego pour être totalement réceptif. Et cette notion d'écoute attentive, ben, c'est le pivot de tout le récit.
Ah ouais.
Bah ouais, l'apprenti écoute, non pas pour acquérir un savoir théorique, mais pour savoir comment soutenir ceux qui sont abattus, ceux qui sont fatigués.
D'accord.
Or, dans le contexte de sa mission, cette obéissance totale va l'amener à une collision frontale avec la société. Et il ne se rebelle pas face à la tâche, même quand elle devient insondable et très dangereuse.
Alors, dangereuse, c'est un euphémisme vu les détails glaçants qui suivent dans le texte.
C'est vrai.
Le texte décrit une violence très très concrète. Il offre son dos à ceux qu'il frappe, il tend ses joues à ceux qui lui arrachent la barbe et il détourne pas le visage face au crachat.
Et historiquement et culturellement, on n'est pas seulement dans la douleur physique ici. On est vraiment dans l'annihilation de la dignité.
Absolument. Dans ces cultures, la barbe, c'est le symbole de l'honneur masculin, de la sagesse. L'arracher, tout comme cracher au visage de quelqu'un, c'est la mort sociale ultime.
C'est l'effacement total de l'honneur de la personne. Et logiquement, on doit se demander pourquoi un champion divin accepterait cette mort sociale sans esquisser le moindre geste de défense.
Bah ouais, pourquoi?
C'est le paradoxe qui déroute tant les lecteurs. L'absence de résistance physique en général s'est interprétée comme une capitulation.
Un abandon, ouais.
Mais le poète montre que cette soumission corporelle cache en fait une solidité psychologique inébranlable. Le serviteur déclare d'ailleurs « Qui osera me condamner? Le Seigneur me vient en aide. »
Waouh. Donc il n'a même pas besoin de se justifier.
Exactement. Il n'a pas besoin de justifier sa position ou de rendre les coups parce qu'il possède une certitude absolue quant à son identité et à sa justification finale.
C'est fascinant.
Le tribunal des hommes le condamne et l'humilie, oui, mais il a déjà remis son dossier entre les mains d'une cour de justice bien supérieure.
Ce refus de se défendre soulève quand même une question immédiate. Que se passe-t-il pour ceux qui s'opposent à un tel message posé ? Et là, le texte lance un avertissement terrible, juste à la fin de ce passage.
Oui, l'image des hommes qui marchent dans les ténèbres.
C'est ça. Au lieu de faire confiance à la lumière de ce serviteur, ils préfèrent allumer leur propre feu, fabriquer leur propre torche.
Et la conclusion est fatale, puisqu'ils finiront par se brûler avec leurs propres flèches enflammées.
C'est une critique redoutable de l'arrogance humaine, tu trouves pas ? Cette tendance qu'on a à vouloir créer sa propre vérité, sa propre lumière morale, plutôt que d'accepter une voix qui semble de l'extérieur faible ou insensée.
Absolument. Et cet avertissement, en fait, il sert de transition naturelle vers le dénouement de cette histoire, vers le quatrième chant.
On passe au chapitre 52, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Puisque le serviteur a refusé de plaider sa propre cause, c'est la voix divine qui va prendre le relais pour annoncer le verdict.
D'accord.
Et littéralement parlant, c'est ici que l'architecture du texte devient brillante. Le récit de l'élévation de ce serviteur est construit sur ce qu'on appelle une inclusion.
Un concept qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, parce que ça explique beaucoup de choses sur la façon dont l'Antiquité gérait le suspense.
Oui, vas-y, explique-nous ça.
Aujourd'hui, on met le dénouement à la fin d'un livre ou d'un film. Mais ici, avec l'inclusio, on a une sorte de cadre.
Mmh.
La promesse du triomphe absolu du serviteur est placée au tout début du récit de ses souffrances, puis elle est répétée à la toute fin. Et entre ces deux piliers de certitude, on trouve la description d'une horreur absolue.
C'est comme si l'auteur mettait un filet de sécurité pour le lecteur, en fait.
C'est exactement ça. Avant de nous plonger dans l'abîme, il nous assure que l'histoire se termine par une victoire.
Faut se rappeler que les auteurs antiques n'avaient ni caractère gras, ni italique, ni surligneur pour indiquer ce qui était crucial, en fait.
Ah oui, c'est vrai. Pas de formatage de texte.
Voilà. C'est la structure littéraire qui jouait ce rôle. En encadrant la souffrance par la promesse de triomphe, le texte empêche le lecteur de désespérer.
Et les mots choisis pour décrire cette victoire, ils laissent vraiment aucune place à l'ambiguïté.
Ah non, pas du tout. L'hébreu empile trois verbes de la même famille sémantique. Il sera élevé, exalté et placé très haut.
Et pour saturer le sens, il me semble que l'auteur ajoute un adverbe particulier, non ?
Oui, le mot « méode » qui indique l'excès, la démesure. On n'est pas sur une simple réhabilitation de sa réputation. C'est une élévation cosmique.
Et cette élévation provoque une onde de choc mondiale. Le texte décrit la réaction des puissants, des rois de la Terre. Ils sont tellement choqués qu'ils en ferment la bouche.
Ils restent littéralement figés, ouais, incapables de prononcer un mot.
L'analyse du docteur Chisholm fait d'ailleurs un lien très pertinent avec des figures historiques de pouvoir absolu, comme Ponce Pilate ou les dirigeants de la dynastie des Hérodes.
Des hommes dont toute la philosophie reposait sur le maintien de l'ordre par la domination militaire, la force coercitive romaine.
Exactement. Voir l'univers entier se prosterner devant quelqu'un qui a conquis par la soumission, c'est un effondrement total de leur paradigme.
C'est clair. Mais cette stupeur mondiale, elle soulève un des débats linguistiques les plus complexes de ce passage, autour de ce que le serviteur fait exactement à ces nations.
Oui, on touche là à la dualité de la langue hébraïque et à la syntaxe complexe du verset 52 du chapitre 52. Le débat se situe entre deux traductions possibles d'un même verbe.
Ouais, c'est super intéressant.
D'un côté, l'approche traditionnelle suggère que le serviteur va asperger de nombreuses nations. C'est un vocabulaire très lévitique, sacerdotal.
Ça donne l'image d'un prêtre qui asperge de l'eau ou du sang pour purifier une impureté, voilà.
C'est ça. Et de l'autre côté, une traduction plus moderne avance qu'il va faire sursauter les nations.
Ce qui, dans le contexte immédiat, colle parfaitement. L'idée de faire sursauter, ça correspond à l'image de ces rois qui restent bouche bée. La stupéfaction semble être la réaction logique face à l'imprévu.
Alors, comment la recherche explique-t-elle cette divergence ?
Les deux traductions ont des arguments très solides sur le plan grammatical, mais au lieu de les voir en opposition, il est beaucoup plus riche de les voir en tension complémentaire.
C'est-à-dire ?
Le geste d'aspersion dans le monde biblique, c'est l'acte ultime de nettoyage pour enlever la culpabilité. D'un autre côté, le sursaut évoque la réaction émotionnelle viscérale.
Donc on combine les deux ?
Exactement. En réalité, si on lit les deux, le sens devient hyper profond. C'est précisément le moyen utilisé par le serviteur, ce rôle de prêtre qui purifie les nations, non pas par la force, mais par le sacrifice, qui provoque le choc, le sursaut incontrôlable des dirigeants du monde.
La méthode de purification est tellement contre-intuitive qu'elle laisse les puissants sans voix. C'est brillant.
Oui. Et si on recule un peu pour regarder la situation globale, on comprend vite pourquoi le monde est si stupéfait.
Ben oui, parce que l'apparence initiale de ce serviteur les avait conduits à faire une erreur de jugement monumentale.
C'est là que le contraste physique entre en jeu. La description de son apparence est presque insoutenable. Le texte nous dit que son corps était tellement défiguré, tellement ravagé par les coups, qu'il perdait son aspect humain.
Pour rendre cette violence compréhensible à un public moderne, ça aide de rappeler la réalité historique d'une flagellation sous l'Empire romain.
Oui, le docteur Chisel mentionne d'ailleurs le film sur la Passion réalisé par Mel Gibson. Le maquillage de Jim Caviezel donne une image crue et viscérale de ce que ça représentait.
Le but d'un tel châtiment, c'était pas seulement d'infliger de la douleur, c'était de déshumaniser la victime. Transformer un être humain en une masse méconnaissable, c'était une méthode de terrorisme d'État pour affirmer la suprématie de l'Empire.
C'est terrifiant. Et le texte prophétique anticipe cette destruction totale de la forme humaine.
Et pour renforcer cette idée de banalité apparente qui cache quelque chose de divin, l'auteur utilise une métaphore agraire très parlante pour l'époque.
Il dit qu'il a poussé comme une racine dans une terre aride.
Voilà. Pour n'importe quel agriculteur du Proche-Orient, une racine dans un sol craquelé et sec, c'est un végétal condamné. Il n'y a pas de potentiel, pas de majesté. Il n'a rien pour attirer le regard.
Et le poème fait un jeu de mots super subtil avec l'idée du bras de l'Éternel. Dans tout l'Ancien Testament, le bras divin représente la puissance militaire, la force qui fend la mer ou écrase les armées.
Sauf qu'ici, les gens regardent cet homme détruit, cette petite racine desséchée, et ils se demandent avec mépris, c'est ça, le bras de la toute-puissance ?
Cette dissonance visuelle, elle entraîne inévitablement une fausse théologie chez les témoins de la scène. C'est le vieux concept de la rétribution stricte.
Une forme de karma inflexible, en gros.
Exactement. Dans l'esprit des foules de l'Antiquité, une souffrance extrême est toujours la preuve d'un péché extrême.
Donc si cet homme est frappé, défiguré, rejeté, c'est forcément parce que la divinité le punit pour des crimes odieux qu'il a commis en secret.
C'est exactement le raisonnement vicieux qui était appliqué par les amis de Job, tu sais. Ils voyaient dans la maladie et la ruine la preuve irréfutable d'une culpabilité cachée.
D'ailleurs, l'interprétation historique de ce passage a même amené certains érudits, comme le célèbre théologien Bernard Doom, au XIXe siècle, à suggérer que le texte décrivait littéralement un lépreux.
Oui, la lèpre étant la maladie de l'exclusion totale, l'ultime signe de malédiction divine dans l'imaginaire antique.
Mais ça pose un problème d'interprétation super intéressant.
Ah ouais? Pourquoi?
Bah si, comme toute la tradition chrétienne le soutient, ce texte pointe vers Jésus de Nazareth, on sait historiquement que Jésus n'était pas un homme chroniquement malade ou atteint de lèpre pendant sa vie.
C'est vrai, il soignait les lépreux justement.
Donc cette notion de maladie au cœur du poème doit être lue différemment, non? C'est purement métaphorique pour décrire le rejet social extrême.
Tout à fait. C'est là que la fonction métaphorique de la poésie prend tout son sens. Le vocabulaire de la maladie et de l'infection n'est pas un diagnostic médical ici. C'est un marqueur sociologique et théologique.
Ça décrit un état de repulsion, en fait.
Voilà. Tout comme on s'éloigne instinctivement d'une maladie contagieuse mortelle, la société s'est éloignée de cette figure. L'image de la maladie illustre le dégoût, le rejet, pur et simple.
C'est puissant.
Et surtout, ça met en place le plus grand moment de révélation de toute cette littérature prophétique.
Ce moment-là, c'est l'effondrement total de cette fausse théologie dont on parlait. Le poème bascule brusquement et la voix narrative change pour devenir un « nous ». Ce « nous » qui représente le peuple, la communauté, qui observait la scène.
Et soudain, le voile se déchire. La réalisation tombe brutale. Ils ne payaient pas pour ses propres crimes. La substitution devient évidente pour eux.
Et les mots martèlent cette nouvelle réalité. Il a porté nos maladies. Il a été blessé à cause de nos rébellions.
Ce transfert de culpabilité est dingue.
L'utilisation du vocabulaire hébreu est d'une précision chirurgicale dans ce passage. Quand le texte parle de nos rébellions, le mot original, c'est « pécha ».
Et ça veut dire quoi exactement, « pécha » ?
Ce n'est pas le mot utilisé pour une petite erreur d'inattention ou un manquement accidentel à une règle. « Pécha » désigne une mutinerie, une sédition politique et morale, un acte de trahison délibéré contre le souverain.
Ah oui, d'accord. Le peuple réalise avec effroi que le serviteur est en train de subir la peine capitale pour leur propre mutinerie. C'est ça, La connexion que fait l'analyse de Chisholm avec des écrits postérieurs comme le prophète Zacharie ou l'épître aux Romains illustre ce moment exact.
L'instant où l'humanité réalise qu'elle a percé, condamné, celui-là même qui venait la sauver. Ce qui déclenche un repentir d'une profondeur inouïe.
Et pour bien saisir la mécanique de ce qui se passe ici, j'aime bien l'analogie d'un paratonnerre.
Ah oui, c'est très visuel. Imaginons une grande maison remplie d'occupants pendant un orage catastrophique. Au-dessus de cette maison, la foudre de la justice s'accumule.
Et à cause de la rébellion de ceux qui sont à l'intérieur, cette foudre devrait logiquement s'abattre sur le toit et désintégrer l'édifice.
Mais au milieu de la tempête, à l'extérieur, se dresse ce serviteur. Il agit comme un paratonnerre gigantesque.
Il ne se contente pas d'attirer l'éclair, il l'absorbe volontairement dans sa chair.
La foudre frappe l'énergie destructrice et déchargée, et la maison reste intacte. C'est pas que les occupants méritaient d'être épargnés.
Non, c'est que l'impact fatal a été détourné et encaissé par un autre. L'analogie du paratonnerre est remarquable parce qu'elle illustre non seulement le sacrifice, mais la mise en sécurité.
Ce qui détruit complètement le concept humain du karma, d'ailleurs.
Totalement. Et le texte hébreu utilise un mot fondamental pour décrire le résultat de cet impact, le shalom.
Le shalom.
Il est écrit que le châtiment qui produit notre shalom est tombé sur lui. Et il faut bien comprendre que le shalom, c'est pas juste l'absence de conflit ou un sentiment de zen intérieur.
C'est beaucoup plus vaste que ça.
C'est un concept qui désigne la complétude, l'épanouissement total, l'ordre parfait des choses. Le message central ici, c'est que le shalom du serviteur a été brisé, pulvérisé par l'orage, dans l'unique but de reconstruire notre propre intégrité morale et spirituelle.
C'est le principe même d'une économie d'échange, sa destruction garantit notre restauration.
Et pour expliquer cette mécanique d'échange à un public de l'Antiquité dont le quotidien dépendait de l'agriculture et de l'élevage, le poète convoque l'image la plus accessible possible.
La métaphore des brebis.
Exactement. Il dresse un portrait psychologique de l'humanité en affirmant « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. »
Ce qui est particulièrement fascinant avec cette image, c'est ce qu'elle dit de notre nature. Tu remarqueras, comparer l'humanité à un troupeau de brebis errantes, c'est pas nous dépeindre comme des génies du mal.
Non, ni des super-vilains rebelles-rebelles qui complotent dans l'ombre, c'est sûr.
Voilà, ça nous dépeint plutôt comme des créatures naïves, distraites.
En effet, l'errance de la brebis n'est pas motivée par une méchanceté démoniaque. Elle est motivée par l'appétit immédiat et la distraction.
Une brebis s'isole du troupeau simplement parce qu'elle voit une touffe d'herbe un peu plus verte, un peu plus loin.
Puis une autre, sans lever la tête, guidée uniquement par son instinct immédiat et sa propre conception de ce qui est bon pour elle, elle s'éloigne du berger.
Et c'est là le drame. Cette quête aveugle d'indépendance, ça la place dans une position de vulnérabilité mortelle. Parce que dans le monde sauvage, l'isolement, c'est la mort.
La brebis solitaire devient immédiatement la cible des prédateurs cachés dans l'ombre. Les loups, les ours.
Et c'est là que l'analyse propose une lecture percutante. Ce prédateur terrifiant, prêt à dévorer la brebis égarée, c'est notre propre culpabilité, notre propre péché. Le prédateur est attiré par notre errance.
Mais l'intervention divine consiste à détourner l'attention de la bête sauvage. Dieu a fait converger toutes les conséquences, toute la férocité de ce prédateur meurtrier pour qu'il se jette sur le serviteur plutôt que sur nous.
Et le contraste ultime, le trait de génie de cette poésie, c'est que le serviteur lui-même adopte ensuite les caractéristiques de l'animal face à cette attaque.
Oui, il est décrit comme muet, comme une brebis devant ceux qui la tondent ou comme un agneau qu'on mène à l'abattoir.
La boucle est bouclée. On retrouve la soumission silencieuse, l'absence de rébellion dont on parlait au tout début.
Il affronte les conséquences de l'errance humaine en refusant catégoriquement de plaider sa propre innocence. Ce silence prophétique trouve d'ailleurs un écho historique frappant dans les récits de la Passion de Jésus quand il reste silencieux face à Pilate.
Il se tait, car se défendre, ce serait annuler la substitution. Il doit absorber l'impact jusqu'au bout. C'est vraiment un arc narratif d'une majesté incroyable.
Ça, c'est sûr.
Si on résume le chemin parcouru à travers l'étude de ces textes antiques, le panorama est vertigineux. L'histoire s'ouvre sur un apprenti attentif, mais maltraité, humilié.
Elle évolue pour nous dévoiler un homme défiguré, jugé à tort par la société,
mais qui encaisse la foudre de la justice à la manière d'un paratonnerre.
Et le récit s'achève sur cette exaltation cosmique finale garantie par ce cadre littéraire implacable qui laisse les monarques les plus orgueilleux du monde sans voix.
C'est vraiment l'anatomie complète d'un renversement de paradigme. Les valeurs humaines, de domination, de défense acharnée de ses propres droits, elles sont systématiquement déconstruites.
Et ça nous confronte directement aujourd'hui à nos propres grilles de lecture. Pourquoi c'est pertinent ? Parce que notre monde actuel est fasciné par le succès visible, par la force, par l'accumulation d'influence.
On mesure souvent l'importance d'une personne à sa capacité à écraser la concurrence, à ne jamais montrer de faiblesse. Cette analyse nous oblige à redéfinir fondamentalement nos critères de réussite et de pouvoir.
Elle démontre que la véritable victoire peut de l'extérieur ressembler à une défaite totale, ce qui laisse une pensée particulièrement provocatrice pour ceux qui nous écoutent pour clore notre analyse.
Je t'écoute.
Si un manuscrit de l'Antiquité réussit à inverser à ce point le scénario du pouvoir, où la souffrance humiliante n'est pas un échec, mais le mécanisme même du triomphe universel, à quelle fréquence, dans notre monde moderne obsédé par l'apparence et le succès immédiat, jugeons-nous mal les échecs autour de nous ?
C'est une excellente question.
Combien de fois passons-nous aveuglément à côté de victoires profondes qui se jouent juste sous la surface, dans la banalité ou ce qui ressemble à la défaite, simplement parce que notre regard est calibré pour n'admirer que la puissance visible ? C'est vraiment une réflexion à creuser.